Alors aujourd'hui, j'ai préparé une prédication qui rejoint un petit peu, en fin de compte, aussi cette présentation. Un petit peu seulement parce que la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'on veut former? Pourquoi est-ce qu'on a à cœur cet institut? Eh bien, c'est parce que quand on apprend à découvrir Dieu, on veut le connaître plus et on veut aussi transmettre ses connaissances autour de nous. Mais quand on connaît Dieu, ça a aussi des implications pratiques. C'est pas uniquement une relation avec Dieu, mais de cette relation découlent des choses dans nos relations autour de nous. Et c'est en fin de compte une des choses qui me travaille beaucoup durant cette année, durant l'année passée, la manière dont toutes les choses qu'on peut apprendre, connaître, découvrir de Dieu, de ce qu'il a fait pour nous, du salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ, ont des implications pour nos vies concrètes aujourd'hui, pour la manière dont nous sommes en relation avec les autres. Et c'est un passage que nous allons lire ce matin qui parle vraiment de ces deux aspects, la relation avec Dieu et la relation avec les autres. Pour prendre un petit exemple, si Dieu est amour, cela veut dire aussi que je peux apprendre à aimer les autres. Si Dieu est juste, je peux aussi apprendre à aimer la justice et à rejeter tout ce qui est injuste et à défendre même le plus faible. Si Dieu est bon, je peux aussi apprendre, à son exemple, à faire preuve de bienveillance envers les autres. Et toutes ces choses, en fin de compte, sont une richesse qu'on peut puiser en Dieu, dans le Dieu infini, qui nous permet chaque jour d'avancer et de grandir aussi à la stature du Christ. Le texte que nous allons lire ce matin se trouve dans l'évangile de Marc. Je vous donne le contexte. Juste avant, des responsables juifs, des prêtres, des sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection, viennent vers Jésus et cherchent à le piéger. Ils lui posent une question et Jésus répond à cette question complexe d'une manière très sage. Et il les corrige même, il les reprend. Ensuite, c'est le passage que nous allons lire. Un docteur de la loi va venir vers Jésus et va lui poser aussi une question. Donc nous allons lire Marc au chapitre 12, versets 28 à 34. Marc 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. La question qui tue, la question qui est primordiale, la question qui est fondamentale. Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que Dieu demande avant tout? Et Jésus répond par deux commandements. Un qui est le premier et un qui est second, mais qui va avec, qui n'est pas séparable et qui ne s'oppose pas non plus. Ils vont de pair. Dieu avant tout et mon prochain en conséquence. Jésus va mettre ici en avant l'importance d'aimer Dieu et Dieu seul. Il cite Deutéronome, versets 4 et 5, qui est le début de la foi juive, le fondement de la foi juive. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus ici affirme l'importance de croire en un seul Dieu. Et c'est à partir du moment où on croit en un seul Dieu qu'on peut l'aimer. Si on croit qu'il y a plusieurs dieux, eh bien, le seul Dieu n'est pas mis en priorité, n'est pas aimé, parce qu'il est un Dieu jaloux, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est lui qui mérite toute et l'entière adoration. Jésus met ce premier fondement. Et il explique la manière dont il faut aimer Dieu. Jésus l'explique, le Deutéronome l'expliquait déjà dans l'Ancien Testament. De tout son cœur, aimer Dieu de tout son cœur. La pensée juive, c'est une pensée qu'il faut contextualiser, qu'il faut comprendre à l'époque. Et la Bible a été écrite à plusieurs époques, dans plusieurs cultures. Si on prend l'Ancien Testament, c'est la culture juive. Si c'est le Nouveau Testament, il y a la culture juive avec la culture grecque qui se mélange. Et chaque parole de l'Écriture est inspirée de Dieu. Elle est entièrement vraie et elle s'adresse à des personnes à certaines époques pour qu'elles puissent comprendre ce qu'il est en train de dire, ce que Dieu est en train de révéler au travers de sa parole. Alors si Jésus était venu aujourd'hui, peut-être qu'il nous parlerait aussi avec des images qui parlent d'avions, qui parlent je ne sais pas de quoi, mais de choses qui nous parlent aussi. À l'époque du Nouveau Testament, il a parlé avec les choses qui parlaient aux gens, des images agraires, de paysans, de champs qu'il faut retourner, où il faut semer, etc. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi toute une culture qui fait partie de l'histoire du peuple juif. Et Jésus cite l'Ancien Testament qui s'ancre dans cette culture. Donc, la manière des juifs de l'époque de voir l'être humain se structurait de cette manière. Il y avait le cœur qui était là où tout l'être intérieur se trouve. C'est là où il y a les attitudes, la volonté, tout ce qui est la pensée, le raisonnement, toutes ces choses qui sont intérieures et qui nous font aussi, en fin de compte, faire des actes. Mais c'est bien plus que les actes, c'est vraiment la disposition intérieure qui fait que nous avons des actes après, en conséquent. Et Jésus dit que c'est de tout notre cœur, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, que nous devons aimer Dieu. Que ce soit notre volonté pour la soumettre à Dieu, que ce soit nos pensées, que ce soit aussi notre intelligence. On peut aimer Dieu avec toute notre intelligence. Et plus qu'on peut, on doit. Et on doit le faire jour après jour, apprendre à le faire jour après jour. Dieu demande la priorité dans chacun de nos élans intérieurs, dans chacune de nos pensées, dans toute notre volonté. L'âme, qui est vraiment ce qui fait qu'on est vivant, qui nous différencie de quelqu'un qui est mort, eh bien c'est ce qui nous montre que tout ce que nous sommes, parce que nous vivons, tout ce qui est vivant en nous doit aimer Dieu. Si chaque jour je vis, chaque jour je dois aimer Dieu. Tout ce qui fait que je suis vivant chaque jour doit s'orienter vers Dieu. L'exigence que Dieu pose dans ce commandement n'est pas minime. Elle exige tout. Une entière soumission, une entière reddition, un amour entier. Dieu ne mérite pas moins qu'un amour entier. Et toute notre force, c'est ce qui nous permet d'agir, c'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec les autres, c'est ce qui nous permet de faire des projets, de construire quelque chose, de travailler, d'être en relation, d'encourager quelqu'un, ou peut-être aussi de le déprécier. Eh bien, dans tous nos actes, Dieu nous demande de l'aimer. Et ça a aussi une conséquence sur notre prochain, la manière dont nous aimons Dieu. Et qui va aussi se découler dans nos actes vis-à-vis de notre prochain. Dans l'Évangile, il est rajouté « de toute ta pensée ». Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, il n'est pas dit ça. Pourquoi ? Parce que Jésus s'adresse justement à une culture qui est grecque et qui différencie la pensée de la volonté et des choses intérieures qui sont dans le cœur. Les Juifs, eux, ne faisaient pas la différence. Donc, pour les Juifs, dire « aime Dieu de tout ton cœur », ça veut dire de tout ce qui est à l'intérieur de toi, avec ta pensée, avec ton intelligence, avec ton raisonnement aussi. Et pour les Grecs, Jésus précise que ça implique aussi toute la pensée, tout le raisonnement, toute l'intelligence. Aimer Dieu entièrement, complètement, de tout notre être. Voilà ce que Dieu demande en priorité, en premier et avant tout. L'aimer entièrement. Et cela a des conséquences pratiques. Cela a des conséquences pratiques parce que ça veut dire que ce que je vais faire, pas seulement quand je viens à l'église ou pas seulement quand je me retrouve avec des chrétiens, mais chaque jour, quand je suis au travail, quand je suis à l'école, quand je suis en train de... Pour prendre un exemple qui peut s'appliquer à moi, quand je suis en train d'étudier, ce que je suis en train de faire, je veux le faire pour glorifier Dieu. Alors, je n'ai pas toujours conscience, mais il faut que j'apprenne, du coup, à faire les choses qui plaisent à Dieu. Et si, par exemple, je suis tenté de déprécier quelqu'un ou de faire mal quelque chose ou de faire du tort, non. Dieu me demande de l'aimer en toute chose, de le glorifier en toute chose et donc d'avoir une attitude qui est conséquente. Et Jésus continue en disant qu'il y a un second commandement qui va avec le premier. Aimer son prochain comme soi-même. Jésus cite ici le Lévitique au chapitre 19, verset 18. Et ce passage-là, ce verset-là, se situe en fait dans des lois qui donnent une place particulière à toute personne qui vit en Israël, quel que soit leur statut, en particulier celui qui est faible, celui qui est pauvre, ou l'étranger, ou la personne qui pourrait être oppressée. Dieu dit d'aimer son prochain et de ne pas l'opprimer, de ne pas l'oppresser, de ne pas lui faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous. Je donnerai trois raisons, il y en a d'autres hein, certainement, mais trois raisons que j'ai trouvées qui, dans ce texte, peut nous encourager à aimer notre prochain. Tout d'abord, Dieu aime mon prochain. Il l'a créé à son image. Et donc, si j'aime Dieu, et si Dieu aime mon prochain, alors qui suis-je pour ne pas aimer mon prochain? Si Dieu l'aime, pourquoi ne l'aimerais-je pas? C'est pas si facile. Mais s'il nous le commande, il nous donne aussi le moyen de pouvoir aimer notre prochain. Parce que l'amour est d'abord un choix. D'abord un choix et des actes qui en témoignent. Vouloir faire le bien à l'autre. Ensuite, Jésus nous enseigne, et je cite Luc 6 au verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » C'est donc logique, si on veut plaire à Dieu, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, de faire le bien aux autres qu'on voudrait qu'on nous fasse aussi, d'aimer notre prochain parce qu'on voudrait aussi être aimé. Et c'est de cette manière aussi qu'on plaît à Dieu en aimant notre prochain. Et enfin, si nous aimons Dieu et que lui nous commande d'aimer notre prochain, c'est un acte d'amour envers Dieu que d'aimer notre prochain. Et là, on voit que notre relation avec Dieu a des conséquences avec notre relation avec les gens qui nous entourent. Si j'aime Dieu, Dieu veut aussi que ça ait des conséquences autour de moi. Alors, cet homme qui interroge Jésus, on peut voir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 qu'il avait quand même envie de piéger Jésus. Mais, face à la réponse de Jésus, il est convaincu et il reconnaît que ce que Jésus dit est vrai, est juste. Au point même que Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Dans Matthieu 22 au chapitre 20, il est aussi dit que ces deux commandements résument toute la loi et les prophètes, toute la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, parce que Jésus nous donne le même commandement d'aimer celui qui est avec nous, d'aimer notre frère. Je vous donne, lorsqu'il dit « je vous donne un commandement nouveau », c'est un commandement d'amour qui est nouveau et en même temps qui reprend complètement ce que l'Ancien Testament nous enseigne déjà. Ces deux commandements résument la foi, résument ce que Dieu nous demande. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et lorsque Jésus dit « tu n'es pas loin du royaume de Dieu », cela veut aussi dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, la seule porte, c'est Jésus. Et il est venu instaurer ce royaume, nous l'ouvrir, nous donner l'accès à ce royaume. Par conséquent, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est entièrement dans le plan que Jésus nous donne pour vivre ce royaume. Croire en lui, croire en Dieu, aimer son prochain. Et quand je dis croire en Dieu, c'est croire et aimer Dieu. Ça va de pair. Si on ne croit pas en Dieu, comment peut-on l'aimer? Et du coup, je me posais la question, est-ce que je ne suis pas des fois interpellé par des non-croyants? Des non-croyants qui aiment mieux leur prochain que ce que moi je fais. Des non-croyants qui mettent mieux leur intelligence en action, où chacune de leurs manières d'être, chaque chose qui fait leur identité, que ce soit leur volonté, que ce soit leur intelligence, que ce soit leurs émotions, que ce soit leur force, que ce soit tout ce qui est vivant en eux, est-ce que des fois ils ne le mettent pas mieux en action que moi, alors que moi je suis censé aimer Dieu avec toutes ces choses? Une chose est sûre, c'est que les deux commandements vont ensemble. Un non-croyant qui fait de très bonnes choses, s'il ne croit pas en Dieu, il manque à l'essentiel, parce qu'il rejette Dieu. Mais si un croyant vient à l'église, dit croire en Dieu, mais en fin de compte, n'aime pas son prochain, il est hypocrite. Et cela veut dire qu'il n'accomplit pas non plus la volonté de Dieu. Alors bien sûr, nous avons tous à progresser dans l'amour. Mais il y a déjà cette volonté à avoir, vouloir obéir à Dieu dans ces deux commandements. L'homme qui a interrogé Jésus ajoute encore, et fait aussi référence à l'Ancien Testament, en particulier à une parole du prophète Samuel, qu'il est plus important d'aimer Dieu et son prochain que d'offrir des sacrifices, des holocaustes. Et les holocaustes, pour les Juifs, c'était le sacrifice qui était l'un des plus importants. Dans la piété, le Juif pouvait donner un holocauste, c'était un sacrifice qui était entièrement consumé et qui avait beaucoup d'importance. Et Jésus, par sa parole, remet en question cet homme qui considère effectivement, soudain, il avait peut-être déjà réfléchi à ça, mais il le dit, c'est vrai, les actes religieux, c'est moins important. Ce que je peux faire pour Dieu d'une manière rituelle, ou même d'une manière sincère, parce que le sacrifice, c'était aussi quelque chose de sincère, ça pouvait être un sacrifice de communion aussi, c'était quelque chose qu'on offrait sincèrement à Dieu. Et je pense par exemple à nos louanges, on peut venir le dimanche matin, on peut les offrir sincèrement à Dieu. Mais ce qui est le plus important, même si ce sont de belles paroles, et c'est bien de les dire, et il faut les dire, mais si on déplaît à Dieu dans les deux commandements les plus importants, on manque en fin de compte l'essentiel. On est hypocrite. Alors oui, nous pouvons louer Dieu chaque dimanche et tous les jours de la semaine, mais il faut que ça aille du sens. Il faut que l'essentiel soit là. L'essentiel, c'est que chaque jour de la semaine, je cherche à plaire à Dieu. Je l'aime vraiment, avec tout ce que je suis. Que je me détourne du mal. Que je n'ai qu'un seul Dieu. Qu'il n'y ait pas d'autre place pour un Dieu qui serait faux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Que je place ma confiance en lui. qu'il soit le centre de mes priorités. Que je ne vive pas dans la débauche sexuelle, ou même dans l'avarice, ou encore dans l'orgueil, mais que je cherche à plaire à Dieu en toutes choses, et aussi dans mes relations avec les autres. Si je viens le dimanche matin et que je prêche, est-ce que c'est une apparence? Ou est-ce que durant la semaine, je cherche aussi à faire la volonté de Dieu? Si je viens au culte le dimanche, que je loue, que je prie, que je prends la Sainte Cène, que j'ai une apparence de bon chrétien, peut-être, est-ce que c'est qu'une apparence? Ou est-ce que l'essentiel, c'est pas d'avoir une qualification, un titre de bon chrétien, mais d'être disciple, d'être chrétien, d'aimer Dieu chaque jour, au quotidien, d'aimer son prochain au quotidien, de vouloir le bien de l'autre. Et oui, je dois dire, ça me remet en question. Et ça m'encourage, moi, chaque jour, à remettre les priorités, la volonté de Dieu d'abord, avant la mienne. Ce qui est juste selon lui, avant ce que je pense être juste, dans mes relations. Aussi dans mon choix pour me marier, ou dans le choix que je fais pour mon travail. Est-ce que mon travail est éthique? Alors je pense que la plupart des jobs qu'on peut trouver sont éthiques, mais voilà, est-ce que dans... Je prends un exemple, si je suis politicien, est-ce que je mets dans ma politique les valeurs que Dieu demande qu'on mette en pratique? Ou toutes autres sortes de travail, est-ce que si je fais le ménage, est-ce que je peux le faire pour la gloire de Dieu? Et c'est une chose toute simple, je n'ai pas besoin d'être conscient que je suis en train de le faire pour Dieu, mais je peux le faire pour Dieu aussi. J'avais entendu une fois Alain Pilecki, l'ancien pasteur, qui prêchait et qui disait, qui parlait d'un moine du Moyen-Âge qui cassait les œufs à la gloire de Dieu, parce qu'il faisait la cuisine pour ses confrères, pour les autres moines, et il cassait les œufs à la gloire de Dieu, tout simplement. On peut casser les œufs à la gloire de Dieu. Et dans la rue, on peut aimer notre prochain à la gloire de Dieu. En Matthieu 5, versets 23 et 24, j'étais interpellé par les paroles de Jésus qui nous encourageaient à mettre en ordre nos relations avec les autres avant de venir faire un holocauste, une offrande ou de rendre un culte à Dieu. Le culte doit aussi être pratique. Et le culte qu'on rend à Dieu en premier, c'est le culte qu'on rend en aimant nos prochains. Voilà ce que Jésus dit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, ces paroles nous interpellent. C'est vrai, si j'ai quelque chose à régler, il faut que je fasse tout à l'heure. Il faut que j'aille prendre le téléphone pour appeler cette personne. Et quand je suis au travail avec mes plus proches prochains, en fin de compte, le prochain, c'est celui qui est à côté de nous. C'est celui avec qui on est en relation, ou dans ma famille, ou ailleurs. Eh bien, il faut que j'apprenne aussi à aimer Dieu en aimant mon prochain. Et c'est une chose qui, en fait, qui je trouve est belle. Parce qu'on n'arrive jamais à la réaliser et dire c'est terminé. Je ne peux jamais dire c'est bon, j'ai assez aimé. Aimer, c'est une chose qui se fait au présent. Et je trouve que là, il y a une richesse de l'amour. L'amour n'est jamais suffisant au sens de je peux m'arrêter. Et je sais que je suis imparfait et que j'aime imparfaitement. Mais ce qui est beau, c'est que je peux me dire maintenant, aujourd'hui, avec les gens qui m'entourent, je peux aimer, je peux avancer, je peux apprendre à aimer un peu mieux et à grandir à l'image du Christ. Persévérons dans l'amour de Dieu, car il nous aidera lui-même à le vivre par son Saint-Esprit qu'il a répandu dans nos cœurs. Amen.